Il y a eu avant le lac, puis il y a eu le lac. Au-delà de ce que certains ont pu perdre avec le lac, si aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils pourraient. Est-ce qu'ils regrettent que le lac ait été créé, quoi? Ça serait quelque chose, un petit peu la question que je poserais.
Bah, la question c'est est-ce que ça va rester comme ça?
Pourquoi ils refont pas, ils se remettent pas à tout, à finir le village?
Le village de sel?
Oui.
Oui, alors ma question c'est, est-ce qu'on est obligé de nettoyer un lac artificiel?
Est-ce qu'il faut qu'on reconnaisse comme une valeur commune la façon de vivre des anciens? Est-ce que c'est, il faut qu'on reconnaisse la façon de vivre des gens aujourd'hui sur ce territoire, sachant qu'ils peuvent vivre de manière très différente? Quelle façon de vivre il faudrait qu'on pose comme socle commun?
Mais je sais pas à qui l'a posé, mais j'aimerais bien savoir combien il y a de races de poissons dans le lac.
J'ai souvent envie de demander aux vieux, là, justement, aux vieux, hein. Putain, mais est-ce que ça vous fait pas chier de voir toutes ces maisons fermées et cette vie sociale qui n'existe plus?
Pourquoi les camping-cars qui dérangent beaucoup de gens, pourquoi eux, ils sont pas verbalisés avec des amendes? Pourquoi est-ce que c'est ces touristes-là qui sont favorisés par rapport à, par exemple, ceux qui veulent faire du camping sauvage ou de la rando?
Mais là, ce qu'on voudrait savoir, c'est que autour du lac, est-ce qu'il y a une route qui fait tout le tour?
Est-ce qu'il y a vraiment un village enseveli, en fait, dans le lac?
Voir vraiment les politiques, s'ils ont vraiment pris, qu'est-ce qu'ils veulent faire, quoi. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire vraiment? Est-ce que vous savez ce que vous voulez faire?
Combien y a-t-il d'anguilles?
Ouais, pourquoi on a exproprié les villageois de sel, sachant qu'il y avait peu de chances que ça monte? Donc pourquoi une injustice à la base et, qui éventuellement répondrait peut-être à pourquoi le village est encore en l'état? Quelle est la véritable raison? Est-ce que c'est vraiment une bourde? Ou est-ce qu'il y a une raison économique, politique, autre, quelque part, qui fait que l'état, que le village est encore dans cet état ou pas?
Si, M. Vézinet, qu'est-ce qu'il pense faire du... Qu'est-ce qu'ils pensent faire de sel?
Est-ce que l'agriculture vit bien?
Oui, bah la question globale, c'est quand allons-nous enfin nous occuper des 300 000 personnes qui nous font l'honneur de leur visite annuelle?
Comment faire des projets collectifs, quoi, avec le problème du foncier? À tous les maires, puisqu'ils sont les premiers à avoir un pouvoir.
Pourquoi on anime le village l'été? Pourquoi on considère quand même ici ce lieu comme un lieu touristique, plus comme un lieu de vie?
Et tu sais qu'il y a une chanson qui s'appelle Salagou?
Bienvenue dans la vallée du Salagou.
C'est aussi l'histoire de ceux qui se battent pour que ce pays soit reconnu. Et ceux qui pensent qu'ils vivent dans un pays pas intéressant.
Tu ne connais pas l'histoire de Panos?
Ben non.
Comment dire, un industriel américain qui a une usine qui produit des médicaments, mais je ne sais plus lequel, mais un médicament très connu. Et qui, en survolant le département de l'Hérault, là, il a vu cette tache bleue et rien autour. Il a dit, oh là là, super. Là, il faut faire un hôtel avec un golf. Il a commencé à avoir tout un gros projet. Et le conseil général a été d'accord, évidemment, très sensible à tout ça.
Personne n'avait jamais entendu parler de ce projet, quoi. L'association était déjà créée. Il y en a qui ont fait le sitting au bureau du conseil général jusqu'à temps d'avoir un rendez-vous. On a été reçu par Vézinet et puis tout son staff était bien entouré. Donc c'était assez nerveux. Et en fait, nous, on avait réussi à avoir le document non officiel de projet d'hôtel. Et donc on les a laissés parler, on leur a demandé ce que c'était vraiment ce projet, etc. Ils ont dit que c'était un tout petit truc. Ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de très important, alors que c'était un énorme projet de complexe hôtelier avec piste d'atterrissage d'hélicoptères, practice de golf, terrain de basket, enfin c'était un énorme truc, quoi. Et donc on les a laissés parler et puis c'était assez tendu et puis même les réactions du conseil de Vézinet, moi je sais qu'il m'a dit oui mais vous avez même pas l'accent, qu'est-ce que vous faites ici, quoi, genre. Et puis au bout d'un moment, Guillain a dit, bon écoutez, ça suffit, arrêtez de nous raconter des conneries là. Et il a mis le dossier sur la table. Et donc là, grosse colère, de Vézinet et tout. On est resté au moins 2 heures, hein, à discuter. Bon, il s'en est sorti en disant oui, mais c'est un aménagement sportif. Et de toute façon, c'est une étude, c'est pas forcément. Mais bon, ils nous ont bien menti quoi, pendant tout un moment. Quoi. Donc là, on a vu que ces politiques-là, ils étaient quand même. S'ils avaient décidé, eux, de faire quelque chose, ils étaient prêts à tout pour mener à bien leur projet.
Quoi. Il y a eu à Celle un gros week-end de manifestation, 2 jours, là, où il y a eu je ne sais pas combien de milliers de personnes qui sont venues. Hein. Les gens sont venus et ils ont dit non, on n'est pas d'accord pour que le Salagou devienne comme ça touristique. Quoi. Donc en fait, il y a quand même des moments comme ça où on s'aperçoit que le Salagou, c'est quand même vachement important pour plein de gens.
Puis en fait, moi, ce que j'ai vécu, c'est le classement du lac en zone protégée suite à cette histoire. Parce que les gens qui avaient fait ce truc-là, ils ont pensé que c'était une bonne idée de mettre une garantie sur l'avenir de la vallée en la classant.
Et de toute façon, c'était vraiment nécessaire parce que l'idée de départ, c'était de classer les bords du lac. Et là, c'était vraiment la catastrophe. Quoi. Bah, si on avait classé que les bords du lac, ça veut dire que tout autour, ça aurait pu devenir un terrain sollicité par la promotion immobilière. On pourrait imaginer des scénarios. La grande banlieue de Montpellier, quoi, avec l'autoroute en plus à côté. Je pense que le classement, il a donné une unité à la vallée, quoi. Du fait de prendre en compte tous les bassins versants, du col de la Merquière jusqu'à du côté Clermont, quoi, ça a unifié la vallée.
Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans ce lac loin des engins.
Bon, le problème, c'est qu'on a classé le site et maintenant tout est bloqué. Donc après, mais bon, comment un site est classé maintenant? Dès que vous coupez un arbre,
c'est quoi qui est bloqué?
Par exemple, moi, je suis propriétaire terrien, j'ai mon père une maison, je vais en hériter. Mais si moi je veux faire une maison, il y a quelqu'un qui est arrivé, l'architecte de France, il a décidé que le poste serait destiné à tel endroit. Moi, si je veux construire une maison, il faudra que je sois mon terrain et pas dans le poste pour construire. Il faut que je fasse des tonnes de papier pour avoir une maison construite, pour faire une maison à moi, pour faire un projet. Donc ce sont des gens qui sont arrivés, qui se sont appropriés la façon d'aménager le Salagou et qui ne posent pas la question à ceux qui sont nés ici, qui vivent ici, que le paysage est dû à ces gens comme ça.
Il y a les gens, bon, il y a les gens du cru qui sont peut-être dépossédés, ils n'ont plus la même liberté, la même marge de manœuvre qu'ils avaient avant en matière d'urbanisme uniquement. Hein. Il faut relativiser parce que le classement du lac, ce n'est pas ça qui empêche tout développement de la vallée, ce n'est pas ça qui nuit au quotidien. Quoi.
C'est une énorme erreur. Quand même.
Le classement du lac?
Mais d'avoir agi dans ce sens-là et de l'avoir obtenu, et le classement du lac, ça c'est pas une erreur. Il y a des gens pour qui c'est leur façon de concevoir la gestion de l'espace, de classer des zones. Mais que ces gens-là qui sont battus pour que la vallée soit vivante pour ça, de la classer, je pense que c'est vraiment une erreur stratégique énorme. Quoi.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
Ben, continuer dans la voie que ça fait, c'est-à-dire il y avait un réseau social, ils avaient montré que c'était capable de résister à des trucs débiles. Quoi. Favoriser l'augmentation de ces réseaux sociaux, de ces liens sociaux, de cette veille sur ce qui se passe. Quoi. Mais voilà, continuer là, vraiment il y avait tous les. Plus il y a de liens sociaux, plus les gens ils sont ancrés dans leur territoire et plus ils vivent dans leur territoire, moins il peut se passer de choses qui viennent de n'importe où. Et là, c'est exactement l'inverse qui s'est passé, c'est que le classement c'est un truc qui vient vraiment de n'importe où. Quoi. Aujourd'hui c'est assez récent, mais depuis quelques décennies, on se rend bien compte que voilà, quoi, mettre la nature sous cloche, c'est pas du tout ce qui favorise. Son développement, quoi, sa vie harmonieuse, quoi. Mais autant c'est le cas n'importe où dans le monde, c'est le cas ici aussi, quoi.
De toute façon, je pense que c'est pas, on peut pas toujours être en lutte, quoi. Il faut aussi des moments de pause, de creux, il me semble.
Et est-ce que de tout ce que tu m'as raconté, il y a une couleur qui te vient à l'esprit?
Du blanc.
Quoi, du blanc?
Parce que j'aime bien le blanc, parce que c'est une couleur qui peut, par exemple, qui peut éclaircir une couleur trop sombre.
Grâce au Conseil Général et à son président André Vizinet, nous avons créé le syndicat mixte de gestion du Salagou, où nous travaillons avec trois objectifs. Tout d'abord, créer des infrastructures en capacité d'accueillir les visiteurs dans de bonnes conditions. Deuxièmement, garantir les qualités, les paysages et de l'environnement. Troisièmement, bien sûr, assurer le développement économique.
En fait, le syndicat, quand il s'est monté, donc ça fait quand même un petit moment. Je crois que c'est... moi, je sais que ça fait déjà 3 ans, mais je crois que ça fait 4 ans qu'il est monté, le syndicat. Ils sont restés ouverts pendant des mois à tout le monde, en fait. Tout le monde pouvait venir et donner son avis, apporter ses projets, s'intéresser à ce qui allait se passer. Et à l'heure actuelle, ils sont toujours ouverts à toute discussion.
Voilà, moi, en tant qu'habitant aujourd'hui, j'aimerais bien être associé au futur de ce lac. Enfin, moi, j'ai pas mal de choses à proposer, humblement.
Non, mais ce qu'on sent, c'est que, si vous voulez, c'est l'irresponsabilité des dirigeants. On va dans les réunions, on en fait tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et ça sert à rien, puisque de toute façon, tout se décide à Montpellier.
Et c'est eux qui décident, et ceux qui décideront tout le temps, et bon, et qui ne donnent pas trop de pouvoir aux mairies qui sont autour de Salagou, qui sont quand même là, elles étaient là quand le Salagou s'est mis en place. Sinon, après, faire des débats avec les villages un peu plus, avec les gens qui y habitent.
Monsieur le Président député, Monsieur le député, Mesdames les vice-présidentes, Messieurs les vice-présidents, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames, Messieurs.
Maintenant, encore une fois, c'est aux autochtones de savoir et de pouvoir, et surtout les politiques, de faire en sorte que les autochtones puissent s'y intégrer.
Donc cette journée s'inscrit également dans la démarche qui est en cours au niveau des opérations Grand Site, puisque je l'ai dit à celle, mais je le redis aujourd'hui, nous aurons prochainement la chance dans ce territoire, et je dois dire en tant que sous-préfet d'arrondissement, fut-il élargi en tant que donc représentant de l'État, d'avoir 3 grands sites. C'est Maurice, Agnane Saint-Guilhem, et puis donc le Salagou.
Aujourd'hui, le cirque de Navacelle, c'était très beau. Hein. Ah ouais, c'est beau. Hein.
Saint-Guilhem,
le désert.
Ça serait dommage que ça devienne un décor à touristes, que ça devienne Disneyland. Comme Saint-Guilhem, que je trouve magnifique, mais que j'ai pas du tout envie de fréquenter régulièrement parce que c'est faux. Faut pas que ça devienne faux. Faut qu'il y ait une vie toujours ici.
Moi, personnellement, ce que je veux pas, c'est un Saint-Guilhem le désert 2. Une bandit. Une bandit avec des parkings payants et que tu viens avec ton car et que tu prends en photo.
Notre rassemblement aujourd'hui ici est très petit par rapport à l'intérêt que suscite le lac du Salagou. Et j'ai dit tout à l'heure 250 000 visiteurs an. Il est probable que dans les années à venir, nous passerons allègrement le cap des 300 000 et peut-être au-delà.
Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est l'argent qui décide, et je pense que si dans les alentours les gens ont besoin d'argent, ils vont baser ce site sur tout, ils vont axer sur tout ça sur le tourisme, et malheureusement je pense que ça, ils risquent de gâcher le site par rapport à ça, par un besoin d'argent des petites communes aux alentours. Et si ce site est vraiment reconnu à long terme, il y aura beaucoup trop de touristes et je pense que le paysage sera dégradé à cause de tout ça.
Après, les grosses craintes, c'est ça, c'est que ça devienne un complexe touristique, hein. C'est clair.
Oui, je vous dis, les craintes, c'est que les gens du coin, j'y reviens, vous allez me dire que je radote, hein, mais en ne faisant rien, se fassent doucement écarter et qui soit tout juste bon qu'à faire, c'est une image, mais à faire à la vaisselle dans les arrière-cours des restaurants. Ce serait dommage. Je préfère que ce soit eux qui montent les restaurants.
Ce qu'on refusait à ce moment-là, c'était des gens qui arrivaient avec du pognon, qui gelaient les terres, qui gelaient les... et qui nous rendaient esclaves. Parce que on voit maintenant, actuellement, le Maspendit, le Pradel, tout ça. Ce qu'on dénonçait il y a 40 ans, hein, c'est arrivé. Et on disait, oui, mais nos enfants seront obligés de partir, s'expatrieront vers les villes pour aller travailler. Et ils ne pourront pas vivre ici. Ou alors, ils iront faire les larbins de ces gens-là. C'est ce qui s'est passé. Ils ne sont pas créateurs d'emplois. Ils sont créateurs d'un emploi hors code du travail. Et ont rejeté cette idée qu'ils prenaient... ils faisaient de nous des Indiens dans des réserves, quoi.
C'est une histoire de stratégie, de développement local à long terme, et de dire on ne fait pas un apéritif et trois cacahuètes pour les habitants de la vallée pour faire de l'animation un peu démagogique. On s'occupe directement des 300 000 personnes. Donc, si on s'occupe des 300 000 personnes, on s'occupera aussi, de fait, des habitants de la vallée.
Mais en été, c'est plus difficile que hors saison. Hors saison, c'est des marcheurs, donc beaucoup plus agréables, qui vont respecter les lieux. Et en été, c'est plus de la masse. Là, ça devient un continuel de 2 mois difficile.
Et là, est-ce qu'autour du lac, vous trouvez qu'il y a les infrastructures nécessaires à votre bon séjour?
Oui, parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Alors, moi, ça me convient quand il n'y en a pas trop.
Point de vue touristique, il manque peut-être mal... On est mal informé.
Non, ça on a 10 ans qu'on cherche, on n'a jamais pu y arriver.
Mais il manque, ça manque d'informations. Oui. Et très mal balisé pour venir, moi, je trouve. Hein. Très mal indiqué. Hein,
si on n'avait pas eu le GPS, on n'aurait pas trouvé. Hein.
Par exemple, j'aimerais pas qu'il y ait trop de gens qui viennent pas d'Octon, ou qu'il n'y ait pas trop de gens qui font un peu la pollution, en fait. Qui viennent de la ville et qui comprennent pas et qui font de la pollution.
Ça, je l'ai découvert avec le temps, après. C'est que le lac, c'était la partie sombre de la vallée du Salagou, quoi. C'est le côté urbain, bizarrement. C'est-à-dire que c'est le terrain de jeu des urbains qu'il y a autour. C'est pas la vallée, elle est rurale. Par contre, le lac, c'est la vie normale, quoi, la vie de citadin. C'est le terrain de jeu des citadins et des touristes, etc. Bah, du coup, c'est tout ce qu'il y a de négatif dans la société urbaine, entre guillemets, on le retrouve là-bas. C'est-à-dire les gens qui sont paumés, qui font n'importe quoi, les voleurs qui viennent braquer des voitures, les flics qui cherchent les voleurs, qui emmerdent tout le monde, les interdictions de dormir, quoi, on peut pas se mettre pour dormir. En fait, partout autour, on est libre, et là, on est comme en ville, en fait. Le lac, c'est la ville.
Ils ont peur de tout, maintenant. Hein. Les gens ont peur des cigales, ils ont peur des fourmis, ils ont peur des araignées, ils ont peur de tout. Alors, bon, les gens vivent en ville. Ils touchent des microbes à longueur de jour, ils arrivent, ils voient une fourmi, c'est un drame. Mais c'est vrai, hein. Il y en a une qui est arrivée, elle est partie parce qu'il y avait des cigales. Bon, bah, c'est affolant, quoi.
Moi, j'aurais envie d'un tourisme un peu plus concerné, un tourisme vert, quoi. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, mais un truc plus familial. Je pense que c'est vrai que ça, c'est un lieu qui s'y prête, quoi.
Non, j'ai pas d'idée là. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire?
Qu'il soit un peu plus, que le lac soit un peu plus entretenu et qu'il soit un peu entretenu, un peu comme un jardin. Tu vois, je sais pas comment dire, qu'il soit que les arbres soient taillés. Il y a des oliviers magnifiques qui sont au milieu de tas de broussailles. Tu vois, rien que ça, tu vois, débroussailler l'olivier, le retailler. Enfin, il y a des petits trucs dans le paysage qu'on pourrait faire, des coins un petit peu mis en, des jolis coins qu'on pourrait mettre un peu en valeur, des choses très, ouais, comme un jardin. Tu sais, un peu, des petites touches par-ci par-là pour en faire un petit bijou, parce que c'est vrai, c'est déjà un bijou.
Il y a 25 ans, quand j'étais tout petit, je me baignais côté Octon aux Arsous, là. À cet endroit, il y avait 2 mètres d'eau, quoi. Mais là, il n'y a plus d'eau quasiment, et jusqu'où tout ça, c'est ensablé. Peut-être la solution, ça serait de le vider un peu, jusqu'au pont Rose, jusqu'à la borne, là. Puis après, faire, je sais pas, peut-être un grand nettoyage de cet endroit. Parce que vu que c'est l'arrivée de la rivière du Salagou, ça emporte pas mal de sable, de ruf. Dès qu'il y a des pluies, les montagnes, tout ce qui s'effrite là.
Pour moi, le premier truc qui m'a vraiment écœuré, c'est qu'on laisse les arcades se casser la gueule.
Et moi, quand j'étais gamin à l'époque, mais il y avait une association qui s'appelait Sauvons les Arcades. Et c'est vrai que ce serait aujourd'hui, j'irais quoi, j'irais le faire quoi.
Je trouve qu'il est abandonné.
Et après, tout le reste, dès qu'il y avait quelque chose de fait, c'était des conneries quoi. Tu vois, le goudronnage de la route autour du lac, pour moi, c'est une connerie quoi. C'est juste un moyen de rouler plus vite et de traverser ces paysages encore plus vite quoi. Et puis bon, là par exemple, dernier exemple en date, ils ont fait des travaux à la borne. Il n'y avait aucun panneau d'information, le chantier n'est absolument pas sécurisé, c'est aujourd'hui là, en ce moment quoi. Et ils ont prévenu personne, d'habitude ils mettent plein de panneaux avec le financeur en machin pour se faire mousser là, mais alors là, pas de mousse, hein. Aucune information, que dalle, j'arrive, je fais un trou de 4 mètres de fond avec la pelleteuse, j'explique rien à personne. Là.
Et c'est quoi?
Je sais pas. Donc ça, voilà, on a toujours eu l'impression qu'ils faisaient du saupoudrage autour du lac, un parking par-ci. Non, je pense pas que les pouvoirs publics se soient vraiment intéressés à ce lac. Parce que sinon, il aurait été beaucoup mieux géré depuis le début, quoi.
Je pense que le lac pourrait être mieux géré. Et que pourrait accueillir plus de monde. Et que ça se voit moins.
Pour garder ce côté sauvage, il faudrait donc justement pas faire des énormes aménagements. Avoir des gens assermentés sur le lac, c'est dommage à dire. Mais le fait que rien qu'une présence assermentée régulièrement tous les jours sur le lac, en fait... ça peut rien que dissuader les gens.
Parce que moi, j'aimerais que ça reste comme ça et que les gens se prennent en main plutôt que d'aménager et parquer les gens comme des vaches, quoi. De leur dire, là, vous avez le droit de faire ça, là, vous n'avez pas le droit. Et...
On gère une vallée comme on gère une entreprise ou comme on gère quoi, un parc naturel, un parc d'attraction.
C'est marrant comment personne n'a la même vue du lac.
J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre.
Moi, c'est moi les camping-cars qui sont garés sur la plage.
J'en ai marre.
Le problème, c'est qu'actuellement, l'été, vous ne pouvez pas être sur le bord du lac parce que personne ne peut en profiter à part les camping-cars. Il n'y a que ça.
On est toujours effarés au début de l'été quand notre beau lac est défiguré par les camping-cars blancs. Et je me demande pourquoi les camping-cars sont tous blancs. J'ai envie de les peindre. Vert ou marron ou couleur russe.
J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre.
C'est un lieu paisible, mis à part l'été où il y a les camping-cars.
On annonce le désert, rouge et ceci et cela. Les gens, ils se heurtent dans un mur de camping-car. Ils disent, c'est quoi ce désert?
C'est que j'ai quand même rencontré ma femme aussi, ça a le goût.
J'ai envie de me marier ici.
Moi, c'est, ouais, j'ai un souvenir, la première fois que je suis allé, que je suis monté sur le mont Lyosson. Je suis parti de Mourez, je traversais le cirque, je suis monté sur le mont Lyosson et j'ai longé la crête, en fait. Et à un endroit, la double vision, à ma droite, il y avait tout le lac et de l'autre côté, le cirque de Mourez. Et ça faisait un peu Mars et la Lune. Tout d'un coup, dans le même regard.
Plein de plaisir et du bonheur.
Ah oui?
Oui.
Pourquoi?
Parce que plein de bons souvenirs depuis que je suis tout petite.
Un bon souvenir. J'ai un souvenir ancien. C'est vieux, hein. Moi j'étais pas grand. Hein. C'était en 86. C'est une date qui est assez connue ici parce que il avait neigé comme jamais il a neigé. Et le lac, toute la partie Octon jusqu'au Pont Rose à peu près, qui est là, donc à la borne. Ben, c'était gelé.
On était au bord du lac. Elle est née le 6 avril, c'était le 5 avril. Je me souviens très bien, il y avait un cerisier en fleurs, ou je sais pas quoi, au bord du lac. On avait posé une couverture. Et à un moment, je me suis levée, j'étais trempée. Et en fait, c'est sûr que j'ai perdu les os au bord du lac.
c'était la fête avec la musique à Pradine, quand on avait l'espoir que Bruno réussirait son projet. Hein. On a fait une super fête avec de la musique, avec des copains qui descendaient du Larzac. Ouais, on avait encore l'espoir, on pensait que ça allait marcher.
Moi, des fois, je vois le lac du Salagou rouge, rouge comme du chocolat.
Cette année, quelque chose de merveilleux.
C'est l'après-midi.
Puis on entend un bruit bizarre, on a dit, oh, il y a encore les canadaires. C'est une passion, les canadaires. C'est une passion. J'ai une passion. Je dis, vite, vite, les canadaires. On entend un bruit bizarre. Et là, avant le 14 juillet, 7 avions qui arrivent. 7. Et là, il me dit, ah, c'est la patrouille de France. Vous voyez l'autre bout du lac. Ils font comme ça. Ils se mettent en V. Et là, bleu, blanc, rouge. La potée ose du lac du Salagou. Il a été béni. La potée rose.
Donc, la première fois que tu es venue au Salagou, tu as fait l'amour dans la...
Ouais. Et à chaque fois que je sens du thym, ça me rappelle ce jour-là.
Puis ouais, la sensation d'être seule au milieu de ça, c'était super. Ça, c'est vraiment un chouette souvenir.
Et il m'a dit, bon, c'est pas, même pas la peine, on fait demi-tour, tu pourras jamais vivre ici. Et moi, je lui ai dit, mais... Je suis là, je tombe amoureuse, quoi. Moi, je voudrais que ce lac reste comme il est, qu'il ne soit pas voué au tourisme. Moi, j'imaginerais un laboratoire d'idées, hein, pour l'agriculture et pour la culture.
Je trouve qu'il faudrait des bergers communaux. Mais c'est ça, c'est les, il faudrait que ce soit les communes. Je trouve que les communes ont vraiment un rôle à jouer. Quoi. Créer un emploi de berger, et voilà, ça serait un troupeau communal. Ça ferait de la viande pour la cantine. Je trouve qu'il devrait aussi y avoir des jardiniers communaux qui s'occupent des jardins, qui nourrissent les écoles, etc. Au bord du lac, avec l'eau, tout ça, ce sera des choses qui... Bon, je sais qu'il y a des difficultés avec les moutons, parce qu'avec les touristes, les chiens, etc.
Non, ce qui est grave, si vous voulez, c'est des choses qui seraient nécessaires. Par exemple, les troupeaux. Je ne crois pas que ça coûterait une fortune qu'il y ait un ou deux troupeaux de moutons qui se promeneraient autour. Je ne crois pas que ça doit être plus cher de payer un berger ou deux bergers que 10 fonctionnaires, non ?
C'est ahurissant, quelque part, de penser qu'on est peut-être dans un système où il y a une espèce de perversité dans laquelle peu de gens peuvent vivre de la terre. Ici, nous, on a beaucoup de chance.
En 1989, lors des élections municipales, ça avait été calculé. Les gens qui vivaient exclusivement de la vigne ne représentaient que 8% dans le village d'Octon.
Et à votre avis, population. Combien représentait-il, par exemple, dans les années 50?
Alors là, je pense que c'était plus de 50%.
En vin de table, vous ne pensez pas à le prix que ça vaut, à peu près, à la départ de la propriété, vous n'avez aucune idée. Si je vous dis le prix, ça vaut 40 centimes le litre. C'est pas cher. Hein, les 25 centilitres, ils valent 2,50 euros, à peu près.
Vous avez repris l'exploitation familiale?
Non, non. Moi, je suis... mon père a toujours dit ça coûte trop, ça rapporte pas assez d'argent par rapport au travail qu'il y a à faire. Bon, moi je suis toujours dans l'agricole, c'est moi qui vends des produits pour tout ce qui est vigne, phytopharmaceutique, pour faire revenir la vigne, quoi, pour que le raisin arrive et qu'il soit mûr dans de bonnes conditions, tout ce qui est maladie, tout ça. Bon, mon métier se base sur la viticulture et l'agriculture, donc si tout ça marche pas, moi c'est pareil, après ça, surtout dans ce moment que c'est un peu la crise, donc... on va voir un peu l'évolution qui va de la viticulture dans la région, mais je trouve que bon, nos politiques ne nous défendent pas assez. Et donc on va voir comment ça va évoluer, mais mon métier est en péril.
Et du coup, les terres qui sont exploitées actuellement, mm-hmm. elles continueront à être exploitées, tu sais ça ou...
Ils y pensent un peu maintenant, mais doucement ils commencent à y penser, à s'inquiéter. Moi, ils adoreraient que je reprenne, par exemple. Mais bon, en même temps, moi non plus, je ne sais pas, donc... Je ne sais pas ce qu'ils font, ils ne m'ont jamais appris vraiment.
Mais non, ça change, on voit déjà beaucoup de vignes qui s'arrachent. De toute façon, c'est clairement reconnu en France que cette façon de produire du raisin et de faire du vin de qualité faible, on va dire, et en grande quantité, c'est quelque chose qui ne marche plus parce que déjà, maintenant, au niveau du vin, il y a de la concurrence de plein de pays qui, ça, sont très capables de le faire. Ils n'ont pas besoin de venir l'acheter en France. Pour la plupart, en plus, ça coûte plus cher que chez eux. Et voilà, par contre, moi j'ai l'impression que ceux qui s'en sortent, c'est ceux justement qui peut-être qui diminuent leur production et qui se mettent à faire, à travailler vraiment la qualité du vin. Voilà.
On arrive à faire, bon, on fait une petite quantité de vin de bonne qualité, mais abordable. Mais tu te rends compte par rapport à ce que nous, on gagne de notre vin. Quelqu'un qui est viticulteur, qui amène ses raisins à la coopérative, par exemple. Bon, ça, c'est tout le problème des coopératives aussi. Ce n'est pas nécessairement un problème d'ici. Il gagne si peu d'argent. C'est absolument incroyable.
La vigne, c'est particulier, quoi. Les viticulteurs, ce n'est pas des paysans. Quelqu'un qui fait du blé, l'année prochaine, il fera du seigle, ou l'année d'après, il fera des, même... Voilà, un paysan, il peut passer d'une culture à l'autre. Un viticulteur, lui dire qu'il va faire autre chose que la vigne. Genre, voilà, ça évolue, la société, les contraintes économiques, tout ça, ça évolue. À une époque, effectivement, je sais, peut-être c'était plus, on pouvait plus vivre comme ils faisaient à l'époque, les moutons, tout ça. Ils ont fait la vigne. Aujourd'hui, on peut plus vivre de la vigne, quoi. Donc, il faut passer à autre chose. Tant mieux, même, je dirais, quoi. Parce que, voilà, quoi, la vigne, c'est pas anodin comme culture, quoi. La façon de cultiver, c'est la culture qui demande le plus de produits chimiques, de... Voilà, quoi. Donc c'est peut-être pas mal de passer de nouveau à autre chose aujourd'hui. On passe tout le temps à autre chose. Le temps, je veux dire, il y a 500 ans, il n'y avait pas de la vigne ici. Hein.
Moi, en tout cas, c'est quelque chose que je trouve curieux ici. Mais je sais pas, je pressens que ça va changer un peu dans cette vallée. Parce que du coup, de la présence du lac et du système d'irrigation qu'il y a sur les parcelles d'ici, je me dis, mais il y a un potentiel d'agriculture et de diversité d'agriculture ici qui est énorme.
Et toi, t'arrives à te projeter dans l'avenir ici?
Non. Parce que se projeter, ça veut dire avoir un lieu pour, voilà, où on peut se projeter. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas réussi à en trouver un dans la vallée.
Voilà, c'est très dur de se loger et les gens n'ont absolument pas conscience. Je crois réellement que ceux qui viennent s'installer, ils viennent aussi pour travailler ici, pour donner vie, tu vois. Moi, j'enseigne au collège. L'institut, elle a pas trouvé à se loger ici non plus, mais elle vient quand même pour former les enfants. Enfin, c'est quand même, tu vois.
Parce que pour toi, ton avenir passera par l'accession à la terre.
Ah ouais, c'est évident. Après, l'accession, pas forcément, pas forcément en propriété, quoi. L'accession pérenne. Le problème, c'est que l'autre mode d'accession pérenne, c'est le fermage agricole et qu'il n'y a plus personne qui en fait. Depuis 15 ans, il n'y a plus de fermage agricole qui sont signés, donc. Du coup, il reste que l'accession à la propriété.
Moi, on va probablement être obligé de partir parce qu'on ne trouve pas d'habitation satisfaisante, parce que voilà. Et donc, on va être obligé de partir et évidemment que on va partir. Mais pour moi, c'est un arrachement, quoi. Et c'est pour ça que j'ai acheté ce truc qui ne sert absolument à rien. Et je me suis dit, si... c'est con, hein, mais je me suis dit, si je disparais, même si c'est dans que 10 ans ou 20 ans ou 30 ans, tu vois, mes enfants, ils vont découvrir, mais qu'est-ce que c'est ce truc, un terrain à Octon, et ils vont revenir.
Dans les zones rurales, il y a la moitié des maisons qui sont fermées toute l'année parce que c'est des résidences secondaires. Donc c'est-à-dire ça fait la moitié des maisons qu'il ne faut pas compter dessus pour pouvoir habiter. Et le potentiel locatif, il est super restreint.
Mais c'est vrai qu'on... c'est un village qui se meurt, quoi, qui se meurt. Il n'y a pas d'engouement au niveau de peut-être de la mairie qui fait que les gens veulent venir s'installer ici pour dire de développer des choses, quoi. S'il n'y a pas de trucs aménagés sur la commune de Lyosson pour faire venir les gens.
Par exemple, Lyosson, c'est un exemple typique, c'est vraiment la mort sociale, quoi. Et Lyosson, quand on traverse Lyosson, il y a 8 panneaux gîtes à louer avec bien précisé à la saison, à la semaine, au week-end, mais. C'est une super exemple, Lyosson, quoi. C'est si il louait à l'année à des gens, il y aurait une vie sociale.
Moi, je pense que c'est le rôle des communes, que au lieu que les communes laissent partir des terrains et pour du privé, qu'elles s'occupent de faire des logements, de faire. Mais ça marche pas forcément. Je vois, il y a eu la mairie d'avant à Octon qui avait un projet peut-être d'un hameau agricole ou des choses comme ça. Ou de faire des habitats sociaux, collectifs. L'accès au foncier est difficile, donc je pense que ce serait le rôle des communes à construire, à créer un parc locatif avec de l'argent public.
Il y a des expériences aujourd'hui très intéressantes d'habitats groupés qui se développent à différents endroits de France et dans la région, il y en a. et où qui lie à la fois la dynamique de répondre aux besoins fondamentaux de l'homme, de se loger, de se nourrir, de se chauffer, et qui est qui des méthodes qui sont viables écologiquement, socialement, parce que c'est des projets qui sont concertés, qui sont créés par les gens qui vivent sur le lieu, par les gens qui vont y vivre.
C'est la crainte, c'est qu'Octon devienne un village dortoir.
Oui.
J'étais au conseil municipal avec la municipalité de Guillaume-Dardé pendant 7 ans. C'était un peu notre crainte. On a essayé de faire en sorte de ne pas trop développer les lotissements pour qu'il n'y ait pas de village de dortoir. Pas seulement un village de vacances, avec des villas occupées juste un ou deux mois par an.
Moi, au fond de ma rue, là-bas, il s'est construit 13 villas.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça, vous ?
Eh bien, moi, je trouve que c'est pas mal, dans le fond, écoutez, parce que maintenant, je vois que nous, notre, maintenant, notre âge, on est de moins en moins, ça a diminué. Hein. Il y en a qui sont partis, qui sont morts, et décédés, tout ça. Maintenant, ce que je bien sûr, tous travaillent, le couple travaille, et s'en va. Tandis que nous, avant, les femmes ne travaillaient pas, quoi, elles travaillaient à la vigne. Tandis que là, toutes travaillent. Elles vont travailler à l'Odève, à Clermont, à Bédarieux, il y en a même qui vont à Montpellier, à Béziers. Hein. Et du route de Mourèze, c'est pareil. Hein. Route de Mourèze, ça s'agrandit à fond. Hein. C'est un bien, parce que quand même, le village, s'il était resté que les personnes de l'époque, ça serait triste. Hein. On ne vit pas avec les personnes actuelles qui ont construit, comme on vivait autrement, vous le comprenez. On en connaît très peu. On en connaît très peu. On en connaît très peu. C'est pas qu'ils sont bien, je ne les critique pas du tout. Ils vivent plutôt chez eux. C'est la vie actuelle.
Les gens qui viennent d'arriver, souvent, c'est qu'ils sont contents que ce soit pas trop loin de Montpellier. Donc on les voit pas forcément, en fait. Ils sont là juste pour habiter.
Voilà, pour le reste, je souhaite que le village vive. C'est bien qu'il y ait une école avec des petits-enfants, ça c'est parfait. Mais qu'il ne se développe pas de façon démesurée, parce qu'un village, il y a une espèce d'équilibre. Si on veut doubler la population, j'ai peur qu'on détruise un peu l'harmonie.
Une cour d'école avec des enfants, des papis, des mamies. Moi, je me vois bien mamie sur un banc.
Dans vos rêves les plus fous, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il devienne ce village ? Comment vous aimeriez que ça évolue ?
Plus de familiarité, plus d'union, plus de sympathie les uns pour les autres. Voilà. Et puis tout marche bien.
Ouais.
C'est ça.
Eh oui.
Moi, j'aimerais que ça vit plus, que les villages soient moins morts. Et que donc, y ait peut-être moins de maisons fermées l'hiver. Donc, peut-être refuser à des personnes, même si elles ont de l'argent, même si elles sont très gentilles et qu'elles ne gênent pas l'été. Mais le problème, c'est en fait pas quand elles sont là, c'est quand elles ne sont pas là, ces personnes. Et donc, en refusant ce plaisir-là, en fait, à certaines personnes, sauvegarder la vie. Voilà. Et ça serait bien dans toutes les campagnes de France, que la vie soit, et le bonheur des gens, quoi, soit toute l'année, soit la priorité numéro un, quoi. Voilà.
Bah, je suis super, super impressionnée des gens qui sont là, qui sont actifs, qui ont envie de faire vivre leur territoire.
Très dynamique. Je trouve la population, j'ai été vraiment très surprise par le dynamisme du coin.
Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y ait des gens qui essaient de récupérer, comment dire, ces différents ressentis, voilà le mot exact.
Ah, je suis très content de parler du Salagou. J'ai ressenti vraiment un grand plaisir à dire des choses comme ça, et peut sans doute qu'on pourrait discuter plein d'autres trucs, et que quand je vais être parti, il y a d'autres histoires qui vont me revenir. Je vais me dire, ah bah dommage, mais tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Une parole, voilà, comme la mienne, puisse être confrontée à une autre, qu'elle fasse partie d'un maillon, d'un tissu, et puis voilà. Ça m'a plu.
Vu que l'avenir de ce territoire, il va devoir passer par l'entente entre les gens qui y habitent, est-ce que toi tu penses que c'est cause perdue ou que...
C'est pas cause perdue, on va être obligé. Hein.
Attends, non seulement c'est pas cause perdue, mais on va être obligé, et puis on va être obligé de créer des nouvelles solidarités, hein.